Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 789 aujourd'hui, qui démarre avec le disque de la semaine, comme d'habitude pour tout ce mois de janvier, c'est Split Up Blues, le dernier album de Bo Weevil chez Lennox Records. J'espère que tout le monde va bien de l'autre côté du poste. Ici, c'est bien parti pour durer jusqu'à 15h, et puis encore pendant de nombreuses semaines, mois, voire années, hein, pourvu que Dieu prête vie à Sweet Home Chicago, la musique du diable sur la radio du diable, Radio 666. Voilà, vous avez rendez-vous avec tout à l'heure, aux alentours de 13h30, 13h40, un extraordinaire bluesman européen. Il s'agit de Napoleon Washington, qu'on va avoir en interview tout à l'heure, avec de larges extraits de son tout nouvel album que vous connaissez bien maintenant, qui s'appelle Mud and Grace, qui était disque de la semaine dernière. On l'a découvert en long, en large et en travers, cette ambiance, cette moiteur, voilà, de l'album de Napoléon Washington. On aura l'occasion de s'entretenir avec lui à propos de sa carrière et à propos de la réalisation de cet album et de ce site internet napoléonwashington.com dont on n'a pas fini de parler. Et puis en disque de la semaine, il s'agit de l'album de R.J. Michaud qui s'appelle Knowledge You Can't Get in College, dont on a découvert un extrait la semaine dernière. On en aura trois aujourd'hui. Et puis bien entendu, on continue notre voyage au pays de la sélection des albums pour le vote du CD Sweet Home Chicago 2009, troisième volet sur 4. Je vous rappelle que vous avez encore jusqu'au 31 janvier, c'est-à-dire 8 jours, hein, voilà, ça commence à se tirer maintenant, hein, pour vous exprimer. Il y a déjà presque 500 personnes qui ont statué, donc qui ont voté pour dire quel était leur meilleur album blues 2009. Donc le site internet de l'émission n'attend plus que vos votes, blues.radio666.com. Et puis je vous annonce d'ores et déjà des cadeaux à l'appel pour 5 d'entre vous qui participeront à ce vote, et puis qui seront tirés au sort, voilà, parmi tous les votants. On continue avec R.J. Michaud, justement, le titre qui ouvre ce superbe album qui s'appelle Knowledge You Can Get in College. J'adore ce titre-là. 2 Hours from Tulsa, R.J. Michaud, voilà, pour les amoureux de l'harmonica blues. Oh,
dance all night. When I leave Minnesota, I made my stop in St. Paul. If I make Kansas City, I'm gonna make Wichita. I got a $2 shine on a 50 cent soul. You know I'm all worn out, but I still got a long way to go. And then it's 2 hours from Tulsa. It's just 2 hours from Tulsa. It's only 2 more hours back to that Arkansas line.
Notamment les deux guitaristes Rusty Zinn et Kid Anderson, également June Corr, Sid Morris, Kellaroy et Hans Boss. C'est l'album de R.J. Michaud qui s'appelle Knowledge You Can Get in College, disque de la semaine pour ce 789e Sweet Home Chicago. On est ensemble jusqu'à 15h. Si vous n'étiez pas là au tout début, sachez qu'on va avoir maintenant la sélection du CD 2009, troisième mouture. La semaine dernière, on en a eu 8. La semaine d'avant, il n'y avait pas d'émission. Et la semaine encore avant, il y en avait 4. Donc on poursuit avec cette présélection. Je vous rappelle que le vote est ouvert jusqu'au 31 janvier prochain à minuit, c'est-à-dire dimanche. Pas demain, mais l'autre, sur le site internet de l'émission blues.radio666.com, et qu'il y a plein de choses à gagner. Alors on poursuit avec aujourd'hui Billy Price et Fred Chapelier, Dave Riley et Bob Corritor, Duke Robillard Jumping Blues Review et l'album de Mighty Mo Rodgers. Voilà, que du bon, que du très très bon pour glorifier cette année 2009 qui aura encore une fois été très prolifique en excellents albums. Voici celui de Billy Price et Fred Chapelier qui s'appelle Night Work, paru chez Dixie Frog Distribution Harmonia Mundi. Voici le titre album Night Work.
Night work is a one.
Et oui, c'est souvent le lot des bluesmen et des soulmen comme Billy Price. Le boulot de nuit, un night work avec donc Fred Chapelier à la guitare, bien sûr. C'est un album de Fred Chapelier et Billy Price, ou de Billy Price et Fred Chapelier, d'ailleurs, comme vous voulez, qui s'appelle Night Work, sorti en 2009. Ça fait partie de cette fameuse sélection. À signaler l'harmoniciste Mark Venner sur le titre qu'on vient d'entendre, titre album. Et puis à signaler, mais vous le savez déjà, Fred Chapelier et le guitariste attitré de Jacques Dutronc pour cette tournée 2010 dont on parle abondamment dans la grande presse et à la télé, dans les journaux, partout. Cette méga tournée de 51 dates qui va s'interrompre puis reprendre et passer notamment par le Zénith de Caen le 27 avril. À signaler également que Fred Chapelier avec son propre band, ce même mois d'avril, ce sera le samedi 17, fera une étape au Souboc à Coville. Voilà, la rubrique Le Souboc, ce sera pour un petit peu plus tard dans l'émission. En attendant, on continue avec Dave Riley et Bob Curitor. Bob Curitor qui n'est autre que le parrain du collectif des Radio Blues. Voici leur album sorti en septembre 2009 qui s'appelle Lucky to be Living. Il est lui aussi en course pour le meilleur album de l'année. Le titre, c'est On My Way.
Don't you wanna go? On my way, don't you wanna go? On my way, don't you wanna go? I got a home on the other show. Mother and father, stand back. Mother and father, stand by. Mother and father, standing by. Lord have mercy, my child's crying.
Bob Curitor vu au Cognac Blues Passion 2008, sorti de cet album Lucky to be Living en 2009 pour le compte du label Blue Witch Records. On continue avec cette troisième partie de la sélection des meilleurs albums 2009 avec un disque particulièrement coup de cœur pour moi parce que c'est vrai que je vais trouver absolument aucun reproche à faire. C'est un disque somptueux qui avait suivi d'ailleurs une compilation 3 CD sur le même label à quoi 3 mois d'écart. Donc c'est vrai que ça pouvait paraître un petit peu indigeste au départ d'attaquer sur un nouvel album de Duke Robillard dès ce mois de juin après avoir entendu le Duke's Blues, Duke's Box de chez Dixie Frog également. Mais là, il y a une nouveauté de taille, c'est la présence de la chanteuse Sunny Cronover. Donc l'album de Duke Robillard's Jumping Blues Review s'appelle Stomp the Blues Tonight. C'est chez Dixie Frog, c'est distribution Harmonia Mundi. Ça fait partie de la sélection des meilleurs albums pour Sweet Home Chicago.
Honey, if that don't suit you, I'd gladly pour
Voilà, ça c'est l'album de Duke Robillard avec la chanteuse Sonny Cronover, un album qui n'a pas encore retenu tous vos suffrages, loin s'en faut. Je vous fais un petit récapitulatif de tous les albums qui sont en lice, mais tout en sachant que ces 20 albums ne sont pas les seuls, puisque vous pouvez également voter pour le CD Blues de votre choix pourvu qu'il soit sorti en 2009. Il y a la compilation donc Chicago Blues, The Living History, avec notamment Billy Boy Arnold, John Primer, Billy Branch et Lurie Bell. Le dernier album de Eric Bibb, Live at Phipps. Blues Power Band Z, Tommy Castro, Hard Believer. Tiens, petite parenthèse, Tommy Castro fera la scène blues du prochain festival Jazz sous les pommiers à Coutances le mardi 11 mai avec Mantelman en première partie. Et oui, Tommy Castro, donc on note déjà cette date-là du mardi 11 mai. Je poursuis ma petite liste d'albums qu'on a déjà écouté dans les émissions précédentes. Shemeka Copeland, Never Going Back, Shane Costello, Shane's Blues, Robert Cray, This Time, Big Days avec Late Live, Omar Kendax featuring Jimmy Vaughan, Big Town Playboy, Candy Cane Superhero, le dernier album de Nick Moss and the Flip Tops avec Lurie Bell qui s'appelle Live at Chance Volume 2, Mountain Man bien sûr, Springtime Coming, et puis les disques qu'on écoute aujourd'hui, à savoir Billy Price et Fred Chapelier, Night World, Dave Riley, Bob Corritore et Lucky to be Living, Duke Robillard, Jumping Blues Review, donc Stomp the Blues Tonight, et puis également dans quelques secondes, Mighty Mo Rogers, encore chez Dixie Frog, Dispatches from the Moon, et puis la semaine prochaine vous aurez des extraits des quatre derniers, à savoir Bobby Rush, Nico Wayne Toussaint, Nina Van Horn et Bo Weaver.
Hello world.
Mighty Mo Rogers.
Oh,
Mighty Mo Rogers, extrait de Dispatches from the Moon, l'album donc quatrième de son Odyssée Blues qui comprendra 12 cycles, encore 8 albums à sortir pour cette Odyssée Blues. Là, il nous emmène dans la Lune, hein, à propos du 40e anniversaire notamment du premier pied sur la Lune par Neil Armstrong. Enfin, c'est pas le seul propos de l'album. Blues makes the world go round, le titre qu'on vient d'entendre. Voilà, petite parenthèse pour signaler une info signée Fred Delforge qui nous apprend, qui reçoit à l'instant même des nouvelles de Jean Guillermo en direct de Memphis. Vous savez que cette semaine, ce week-end, c'est l'International Blues Challenge auquel sont confrontés quelques-uns de nos co-religionnaires. Donc, quelques musiciens français, puis énormément de musiciens américains. Il y a des dizaines et des dizaines de musiciens qui sont présentés par les différentes blues societies. Et puis, la seule blues society française s'appelle Blues sur Scène. Donc, c'est Jean Guillermo qui est sur place pour, bien sûr, soutenir ces poulains, à savoir pour la catégorie solo et duo Philippe Ménard, et pour la catégorie groupe Bo Weevil. Eh bien, je dois vous annoncer, comme vous nous le dit Fred Delforge, que pas de chance, nos Frenchies Philippe Ménard et Bo Weevil sont restés sur le côté au moment de monter dans le wagon qui les aura emmenés en finale. Pas plus de chance pour Nick Owen Toussaint, qui a subi le même sort. Nick Owen Toussaint, qui lui est présenté par la Blues Society du sud de la Floride. Voilà, puisque Nick Owen Toussaint habite aux États-Unis maintenant. Le seul finaliste non-états-unien étant un Canadien. Voilà le nom des finalistes, dès que possible. Merci à Fred, et puis pour toutes ces infos qui relayent donc Jean Guillermo, qui se trouve sur place à Memphis. Voilà, également à signaler que sur place sont là-bas pour défendre leur album Springtime Coming les Mountain Men. Ils y sont en ce moment à Memphis, et ils seront vendredi prochain au Subok à Coville. Voilà, pour pourquoi pas aller les voir pour leur parler de cette expérience américaine. Et puis à savoir que la veille, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans l'émission, puisqu'on aura des extraits de disques à écouter, on aura également un invité de choix sur la scène du Subok. Il s'agit de Bob Brosman. Donc j'espère que vous n'avez pas loupé l'une de ces deux soirées, ou pourquoi pas les deux. Faites-vous plaisir, jeudi 28 Bob Brosman, et vendredi 29 Mountain Men au Subok à Coville. On fait un petit tour par le disque de la semaine, et puis ensuite, puisque 13h30 s'approche à grands pas, on va avoir notre interview en direct par téléphone avec Napoléon Washington en direct de Suisse. En attendant, voici R. Jimmy Show, Ain't Nothing New. Jimmy Show, disque de la semaine pour ce 789e Sweet Home Chicago. Allez, on pénètre plus avant dans l'univers de Monsieur Napoleon Washington. L'album s'appelle Mud and Grace. Vous connaissez l'histoire de cet album, je vous en ai parlé la semaine dernière. Allez, voici la toute première plage. Come Down Blues. Down Blues, c'est ainsi que démarre ce tout nouvel album Mud and Grace de Napoleon Washington, disque de la semaine dernière. On en a écouté trois extraits, en voici trois autres aujourd'hui. Avec cerise sur le gâteau, une interview en phoneur. Napoleon Washington est au téléphone ici avec Sweet Home Chicago. Ça va ?
Ça va bien, merci, oui.
Oui, eh ben écoute, on t'entend pas trop mal. On va essayer de régler un petit peu tout ça parce que la technique. Voilà, c'est bon là. Écoute, je te prends voilà, en live au téléphone. Là, tu es chez toi en Suisse, j'imagine.
Oui, c'est ça, je suis en Suisse. Oui.
Voilà. Entre deux dates toujours ou c'est plus calme en ce moment, j'allais dire.
Non, c'est c'est assez calme en ce moment. Non, c'est la période de sortie, donc c'est pas encore, il y a pas encore de date juste maintenant.
D'accord. Alors on va évoquer un petit peu en quelques mots peut-être pour les gens qui te connaissent moins mal ou pas du tout. Il y en a peut-être quelques-uns parmi les auditeurs de Sweet Home Chicago. On va essayer d'évacuer tout ça. Est-ce que tu peux évoquer tes débuts en musique? Tu évoques dans ta bio un petit garçon de 8 ans avec une guitare en carton. Aurais-tu grandi au sein d'une famille attentive à la musique?
Oui, disons que c'est assez difficile de parler de début très concrètement parce que je crois que c'est quelque chose qui a toujours été là, le fantasme, l'idée fixe de faire de la musique.
Oui.
Et de passer ma vie à faire ça, ça a toujours été là. Donc effectivement, quand j'avais 8 ans, ou même avant peut-être, j'étais déjà totalement obsédé par ça et je me construisais des guitares en carton pour déjà commencer à essayer d'aborder ce fantasme, j'imagine. Et puis, j'ai pas grandi vraiment dans une... On peut pas dire... Il n'y avait pas de gens qui pratiquaient d'instruments autour de moi vraiment, mais j'ai effectivement grandi dans un milieu qui était très, qui m'a en tout cas communiqué le cadeau extraordinaire de me dire que la musique était quelque chose d'important. J'ai eu vraiment l'immense chance de ne pas être confronté à un milieu dans lequel on disait que la musique servait à rien.
D'accord.
Mais au contraire, où elle avait une place vraiment, c'est quelque chose d'important qui fait partie de la vie.
Un élément culturel en quelque sorte.
Vraiment, oui.
Et la musique en général ou des styles en particulier déjà à l'époque?
Non, vraiment la musique en général, la notion de musique vraiment très très large. Je crois pas que j'ai écouté de blues en étant gamin, ni même que j'ai eu la notion que ça existait. Je me rappelle que j'avais un 45 tours de la marche turque de Mozart, que j'adorais et que je passais à longueur de journée. C'était plutôt de cet ordre-là.
D'accord. On aura l'occasion de parler des étiquettes un petit peu plus loin dans l'interview. Tes débuts en groupe, donc ça a été très jeune, j'imagine, à l'adolescence, hein,
Oui, j'ai commencé à jouer de la batterie. Moi, je voulais jouer de la guitare, mais il y avait un poste de batterie à reprendre. Et j'avais 11 ans, donc j'ai fait mes premiers concerts à 11 ans en jouant de la batterie, tant bien que mal. J'avais pas joué tous les éléments, j'en faisais que quelques-uns.
D'accord.
J'ai commencé comme ça.
Alors j'imagine que ça t'a fait fouler quelques scènes de ton pays, la Suisse, mais à cette époque-là, peut-être jusqu'à ta majorité, où est-ce que t'es pas t'emporté lors de ces vertes années avec la musique?
Effectivement, j'ai fait tout le parcours normal, quoi, où en répétant des caves, on fait les concerts là où on peut en faire, et puis vraiment l'apprentissage le plus standard du monde dans la matière. Et puis j'ai eu la chance, quand je devais avoir une vingtaine d'années, d'être engagé pour remplacer vraiment en catastrophe quelqu'un dans un band de New Yorkais. Qui a pas mal tourné, qui a vraiment pas mal tourné. J'ai vraiment eu la chance d'apprendre le métier de cette manière-là. Mais en dehors de ça, qui était effectivement très formateur, ben j'ai fait mes classes vraiment comme tout le monde, quoi, en montant des petits bennes, en changeant régulièrement de formation, en essayant des autres trucs, puis en apprenant de cette manière-là.
D'accord, donc j'imagine qu'il y a eu forcément des rencontres déterminantes, peut-être au point d'influencer ta façon d'appréhender la musique dans son ensemble de ces jeunes années, 18-20 ans, un petit peu plus.
Oui, je pense que l'équipe de New Yorkais avec qui j'ai fait ces tournées m'ont vraiment appris la notion de métier par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on peut parler d'une rencontre déterminante dans ce sens-là, où vraiment j'ai appris qu'on était responsable d'une partie du public qui était devant soi, quand on était en band en tout cas, et puis qu'il fallait qu'on était là pour leur donner quelque chose. Moi, je me souviens d'avoir fait mettre un peu les pendules à l'heure, comme ça,
ah, oui.
On m'expliquait que tous les gens qui étaient là dans la salle, ils avaient tous 99 channels de télé à la maison, et que s'ils étaient là, c'était pour une raison, et qu'il fallait faire la livraison, il fallait leur donner. Alors j'ai vraiment appris énormément de choses comme ça, et ça, on peut parler d'une rencontre déterminante. Musicalement, non, c'est vraiment un ensemble. Moi, j'ai pompé à chaque seconde tout ce que je pouvais pomper partout. Il n'y a pas eu un événement particulier.
Oui, donc Napoléon Washington en forme d'éponge musicale un petit peu pour s'imbiber de tout ce qui existe et puis pour en faire ce que tu fais maintenant finalement.
Oui, c'est vraiment ça. Je crois que c'est vraiment ça, quoi. Faire l'éponge et surtout le faire toujours. Ça s'arrête pas un jour. Il faut vraiment toujours être attentif et attraper ce qui passe.
Alors il y a quelques noms de gens avec qui tu as pu tourner. Je sais que tu as fait partie des Crawling King Snakes pendant 8 ans notamment. Tu as joué également. Tu as joué avec le frère de Brian Setzer, Gary Setzer, hein, c'est ça?
Oui, c'est c'était lui qui chantait dans la scène de New Yorkais, justement.
Ouais, ouais. Et puis Rock Bottom également. Alors là, c'est quelqu'un d'important, je crois. Il y a d'autres bluesmen que toi qui en parlent également avec beaucoup d'émotion, on va dire, parce que c'est un garçon qui nous a quittés à l'heure où c'était pas encore l'heure, en fait. Hein. Lui aussi, peut-être, t'a-t-il influencé sur ta façon d'appréhender le public ?
Oui, c'était majeur comme travailler avec quelqu'un. Et puis, en fait, le truc qui était très très beau avec lui, c'était que le band, donc le Crawling King Snake, qui était le band que j'avais à cette époque-là, lui se mettait à son service comme ça pour une tournée par année en Europe comme backing band. Et moi, ça a toujours été, en fait, à la base, ce dont je rêvais quand je me construisais des guitares en carton. Mm-hmm. C'était ça, c'était pas tellement d'être devant. Moi, ça m'a jamais tellement intéressé. Je l'ai toujours fait par défaut, de me mettre devant et d'affronter le public en tant que frontman. C'était pas tellement ça, et c'est toujours, d'ailleurs, étrangement, pas tellement ça qui m'intéresse. J'avais plus de plaisir à aller travailler pour, à me mettre au service des gens. Et avec Rock, c'était vraiment ça, quoi. Et c'est quelqu'un, évidemment, en reprenant l'image de l'éponge, c'est quelqu'un dont il y avait énormément à apprendre.
D'accord, ben oui, ça c'est effectivement a posteriori. Est-ce que j'avais également une question à propos de ton expérience avec les Five Blind Boys from the Parish, là, que tu décris bien dans ta bio comme étant une création du batteur Raphaël Pridurly, qui intervient d'ailleurs sur ton nouvel album. Les trois musiciens qui prétendent être aveugles, s'être échappés de l'hôpital ophtalmologique de Bogalusa et qui s'emploient à déployer un arsenal humoristique qui n'a en fait que pour fonction de masquer une approche résolument puriste d'un blues noir, électrique et crasseux. Est-ce que c'était plutôt juste pour faire rire les gens, ou est-ce que c'était un vecteur possible, on va dire, pour faire passer ta musique auprès d'un public tout neuf?
Ben, y a vraiment cette volonté dans ce projet-là. Il y a d'une part la volonté de réaliser un peu notre fantasme d'ado qui était de faire un band de blues avec un répertoire classique et puriste, vraiment.
Oui.
Et puis, c'est effectivement un gag, mais il n'est pas si innocent que ça, et il n'est pas si peu calculé que ça, parce que c'est vraiment un projet qui fonctionne sur le principe du cheval de Troie.
D'accord.
Le cheval de Troie, c'est simplement réussir à rentrer chez les gens. Je crois que si vous dites j'ai un band de blues électrique noir et crasseux, on va pas vous ouvrir beaucoup de portes. Mais si vous mettez toute une couche d'humour et d'imbécilité là autour, les gens vont beaucoup plus facilement ouvrir la porte à un truc qui, finalement, derrière, mine de rien, et avec toute la retenue et toute la politesse qu'on peut y mettre, qui est un truc vraiment puriste. Ouais. Et une démarche vraiment qui va dans ce sens-là, mais dont on parle dans une interview comme ça, mais qui ne doit pas être apparente.
Bien entendu, oui. Non, mais puis on en parle a posteriori, surtout. C'est peut-être pas non plus le propos de ce que tu fais actuellement. Je ne pense pas que tu le vois de cette manière-là maintenant. Enfin, j'extrapole peut-être.
Non, il y a... Simplement, je crois qu'il y a aussi une fonction à ce band qui est d'avoir une formule comme ça qui permet de faire de la scène, et de la scène, c'est plus électrique, et qui est un combo vraiment qui peut tourner, et qui peut très bien tourner dans plein d'endroits et de petits clubs et de trucs comme ça. Mm-hmm. Ce qui, à moi, me laisse beaucoup plus de liberté. C'est un peu mon band de scène. Et en ce moment, je fais surtout de la scène avec ce band-là, et quasiment plus du tout avec mon travail à moi, parce que je trouve que c'est pas sur scène qu'il est le plus intéressant. Et il y a aussi une fonction dans les Five Blind Boys, il y a aussi une fonction de pouvoir occuper la scène, de pouvoir tourner et de lever un peu le pied de mon côté.
D'accord. Donc ça, c'est une forme d'équilibre, en fait, quelque part.
Oui, c'est ça, vraiment, mmh. Oui.
Alors, plutôt que de te demander quels sont les bluesmen qui t'ont influencé lorsque tu as démarré, ça tu en parles abondamment dans ta bio qui figure sur le site internet, j'aurais cité quelques noms de musiciens qui sont encore en activité. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots ce que tu ressens à leur évocation? Je te donne quelques noms comme ça, et puis tu réagis à chaud si tu veux bien.
Allons-y. Okay.
Alors,
Ray Cooder, moi j'ai toujours eu une petite retenue par rapport à lui, parce que j'ai pas été très convaincu du fait qu'il pompe le morceau de Blind Willie Johnson pour faire la BO de Paris, Texas.
Ouais.
Que lui gagne beaucoup d'argent avec ça, et Blind Willie Johnson rien du tout. Ça, j'étais pas très sûr du truc. Et puis j'ai aussi un peu le sentiment, malgré toute l'importance, j'ai du respect pour Ray Cooder, bien sûr, mais je pense que Buena Vista, par exemple, ça a fait plus de tort à la salsa cubaine que ça ne lui a fait de bien. Donc j'ai
d'accord. D'accord. Toute franchise, hein. On y va, on est là pour ça, bien sûr. Bob Brosman.
Ah, Bob Brosman, c'est un peu le, c'est un peu le seul type qui a un doctorat dans le ciel, dans le slide. Oui. C'est un type. J'ai appris beaucoup en l'écoutant. J'ai appris beaucoup en lisant le bouquin qu'il a écrit sur National, qui est vraiment passionnant. Je crois que c'est un type qui a vraiment une dédication qui est assez touchante pour un instrument. Alors c'est son approche à lui. Il y a des gens qui abordent ça différemment, mais lui c'est vraiment cet instrument. Et c'est un type qui a dit pas mal de choses assez intéressantes. Et puis qui a vraiment une approche assez originale vis-à-vis de tout ça.
D'accord. Je suis allé pêcher également, on vient de le voir avec Ray Cooder, Bob Brosman, mais également d'autres sliders. On s'arrête là sur la liste des sliders, il y aura d'autres univers après, mais je pensais également à Kelly Joe Phelps.
Alors lui, je pense qu'il est, il y a quelque chose de très intéressant chez lui, c'est que c'est un type qui vient du jazz et qui vient même du free jazz, ouais. Et qui tout à coup se met à s'intéresser au blues. Et à mon avis, ça en dit long, ça dit quelque chose, ça dit à propos du fait qu'on puisse aborder. On a toujours un peu l'impression que le blues, parce qu'il repose sur une économie de moyens à peu près absolue, mm-hmm. serait une musique simple ou facile. Et typiquement, je crois qu'à travers la démarche d'un type comme Phelps, on a la démonstration du contraire.
Est-ce que ce serait
le... vient du jazz et qui tout à coup s'intéresse à quelque chose qu'on met parfois en dessous, à tort, et qui aborde ça d'une manière que je pense intéressante, par un parcours que je trouve vraiment intéressant.
D'accord. Est-ce que ce serait qui peut le plus peut aussi le moins, mais c'est pas forcément donné à tout le monde, la preuve.
Oui, c'est ça. Mmh. Oui. Et je pense que c'est plus facile de faire le plus que de faire le moins.
Je t'attendais un peu tournant là-dessus, effectivement. Eric Clapton.
Ah, Clapton, oui. Ouais. J'aime bien Clapton, mais j'aime vraiment mieux la pizza, quoi. Clapton, c'est quelqu'un à qui on doit énormément. Alors, il y a, que ce soit très clair, j'ai du respect pour le bonhomme aussi. Ouais. Je pense qu'on lui doit énormément. Il y a énormément, quand il n'y avait que le blues boom anglais pour faire tourner, pour donner un intérêt ou pour remettre un peu de lumière sur tous les bluesmen noirs qu'on était en train d'oublier.
Oui, c'est vrai qu'avec...
Là, ils ont vraiment modifié. Mmh. On leur doit quelque chose. Maintenant, c'est dans l'état du paysage actuel, on leur doit beaucoup. Maintenant, Clapton, vraiment, c'est, pour moi, c'est inécoutable. Moi, c'est,
par rapport aux musiciens,
ouais. Anglais, c'est tellement blanc, j'ai horreur de ça.
Par rapport à ce qu'il fait actuellement, tu entends, hein, parce que...
Moi, ça me dépasse vraiment. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un type qui refait un disque avec le répertoire de Robert Johnson. Quoi. Ça, c'est vraiment surréaliste. Je pense qu'il faut pas rigoler avec ça. Quand vous faites un disque, vous allez prendre 50 minutes d'attention de la vie de quelqu'un. Quoi. Il y a quelqu'un qui va consacrer 50 minutes de sa vie à vous dire, à penser qu'il a rien de plus important à faire à ce moment-là. Et c'est pas rien. On doit du respect à ça. Et moi, j'ai pas envie de passer 50 minutes à écouter Clapton jouer du Robert Johnson. J'ai envie d'écouter Robert Johnson. Ça me dépasse.
D'accord. Alors, j'ai encore trois artistes comme ça. Il y en a deux. Les deux prochains se ressemblent un tout petit peu. Oui, ils ont les mêmes univers, on va dire, pour être très grossièrement parlé. Coco Robichaud, par exemple. Alors.
Ah, ça, c'est un personnage. C'est vraiment. Je me suis souvent posé la question de quelle était la part de roman qu'il maîtrisait et quelle était la part du personnage vraiment. Je l'ai croisé qu'une fois, je le connais pas, mais je pense que c'est quelqu'un qui a créé un univers. Et moi, je suis sensible à ça. Je trouve que c'est assez beau. Quand on parvient à faire de la musique, c'est une chose, mais communiquer un univers, c'est un bel acte. C'est une belle proposition et je pense que ce type est vraiment bon là-dedans.
Est-ce qu'on pourrait dire la même chose d'un garçon comme Tom Waits?
Ah, Tom Waits, c'est encore largement au-delà. Je pense que Tom Waits, c'est vraiment c'est le prince. Ouais, Tom Waits, pour moi, il n'y a pas grand-chose en dessus de ça, dans la mesure où on lui doit un précédent absolument magnifique, je trouve, et encourageant dans la production discographique, que d'avoir réussi à dépasser complètement la question du style. C'est-à-dire que plus personne ne demande quelle musique fait Tom Waits. Ouais. Tom Waits fait du Tom Waits, point final.
C'est une référence à part
entière. Et c'est pas tellement d'avoir réussi à créer son propre style qui est intéressant, c'est d'avoir réussi à annihiler cette insupportable question de quel style faites-vous, qu'est-ce que cette musique, comment vous la définissez. Il a réussi à effacer, à écraser complètement cette question, et ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire.
Il y avait un album du début des années 80 qui s'appelait Swordfish Trombone qui a été détesté par certains et adulé par d'autres. Oui. C'est un petit peu le résumé de ce dont il était capable et ce dont il continue à être capable. Voilà, on le connaît surtout pour, enfin, dans le grand public pour Blue Valentine, mais il y a eu d'autres choses. Chris Rea, pour terminer avec cette liste, cette revue d'artistes.
Ah bah Chris Rea, c'est intéressant parce que c'est un type qui a vraiment fait une espèce de pop, disons très assez typé des années 80. Et pourtant, moi je trouve que c'est très très intéressant. Pour moi, c'est exactement le contraire de Clapton, c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est aussi un Anglais, et il a réussi lui à transcender vraiment à absorber ce qu'il avait à absorber, et puis à le repasser après une digestion qui en fait quelque chose de personnel et d'intéressant. Moi j'ai beaucoup plus de respect pour Chris Rea parce que c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose de personnel sans jamais nier le fait qu'il avait évidemment pris ça là où ça se trouvait. Alors, je trouve que là il y a une légitimité, quoi.
Il y a un point commun entre Napoleon Washington et Chris Rea, c'est l'art graphique, la peinture. C'est pas que la musique. Chris Rea nous a gratifié il y a 3 ou 4 ans d'un ouvrage de ses tableaux agrémentés, on va dire, le mot est faible, par 9 albums et un DVD. Voilà, c'est quelque chose absolument monumental. Et je sais que ça va être un des volets de l'interview tout à l'heure. Tu t'intéresses aussi beaucoup aux arts graphiques, hein, ça fait partie de ta formation de base.
Oui, ça fait partie de ma formation, mais surtout, je pense, enfin, à partir du moment où on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait, et que la réponse à qu'est-ce qu'on fait, c'est pas je fais de la musique, mais c'est je suis là pour essayer de transmettre modestement, hein, sans en faire une histoire, mais ouais. Transmettre, ouvrir une petite fenêtre sur mon petit monde, sur mon petit univers, à ce moment-là, tous les vecteurs, tous les outils sont intéressants, et le visuel, c'est une dimension, l'audio, c'en est une autre, et c'est intéressant d'en explorer le maximum. Moi, j'ai une approche plutôt un peu de la Renaissance, mais bon, toute proportion gardée, mais je pense que c'est intéressant de savoir maîtriser le plus de domaines possible.
Alors, ça peut nous amener à une série de questions suivantes que je voulais te poser par rapport à ce que tu as fait ces dernières années. On va évoquer tes deux albums précédents, on évoquera tout à l'heure le nouveau Modern Grace. Le cinéma virtuel d'abord, qu'est-ce que c'est? Parce que ça fait partie de ce que tu peux proposer également en concert.
Oui, c'est simplement l'intégration de cette notion d'image dans l'ensemble d'un petit travail de ce à quoi je consacre mon temps. Et je ne sais plus, en 2005 ou 2006, fait un spectacle qui impliquait beaucoup d'images aussi, et quelques projections, mais à un moment où ça ne se faisait pas encore beaucoup. Et puis ce spectacle avait été filmé avec de gros moyens. Mmh. Et il y avait eu, à un moment donné, la question qui s'était posée de publier un DVD de ce spectacle, parce qu'il était quand même visuellement très fort. Et puis, moi j'avais dit non, je crois vraiment pas qu'on va pouvoir vendre un DVD.
Tu pensais que ça n'allait pas intéresser les gens, quoi. Ouais.
Donc, j'avais dit, foutons-le sur le web, au lieu de, puisque je pense que c'est illusoire de chercher à le vendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le donner, et c'était déjà un peu les prémices de ce qui s'est fait récemment, justement, avec ce
voilà.
Puisqu'on avait mis sur un site l'entier de ce spectacle, qui était visionnable, dans un petit contexte de cinéma virtuel, justement. Mmh.
Dans la version précédente du site web, il y a encore une petite fenêtre pour aller retrouver ça actuellement. Alors les deux albums précédents qu'on avait suivis ici dans l'émission, parce que on se souvient que tu étais passé à Caen à l'invitation de l'association Backstage, Jacques Picard, que je salue ici, et puis on t'avait revu, enfin je t'avais revu sur Cahors, un petit peu plus au sud. En 2002, tu avais sorti un album qui s'appelait Hôtel Bravo, c'est un album que tu as enregistré entièrement sous un pont à New York. Alors, déjà, ça paraît, pour certains, ça pourrait presque paraître absurde, pour d'autres, intéressant, voire amusant, mais est-ce que c'était. Qu'est-ce qui, en fait, a guidé ce choix d'enregistrer sous un pont à New York un album?
Ça n'avait pas été à New York, en fait. Cet album-là avait effectivement été enregistré en pleine ville, sous un pont,
oui.
Mais celui-là, c'était en Suisse. C'est le suivant qui a été enregistré.
Alors, je confonds, désolé.
Et puis celui-là, ce qui avait présidé à ça, je crois que c'était une espèce de... Moi, j'essaie toujours de regarder un peu où j'en suis, et puis de pas trop me monter la tête. Et comme c'était le premier album de Washington, en fait, Je m'étais simplement aperçu, parce qu'il faut être réaliste, que si j'annonçais à la planète entière que j'avais publié un album de blues acoustique, j'allais même pas susciter un intérêt poli. Mmh. Donc je me suis dit il faut trouver quelque chose, parce que je crois que il faut rester modeste, il faut rester à sa place. Nous sommes nombreux dans ce cas-là, dans une position où non seulement nous sommes tenus de livrer le matériel, de livrer le produit, l'objet, mais je crois qu'en l'état, on est obligé de livrer avec une certaine curiosité. C'est le moins qu'on puisse faire, on doit ça. Parce que le stock de curiosité disponible auprès du public, pour un type comme moi, il est à peu près de zéro. Et c'est comme ça, ça sert à rien de se lamenter sur ce fait-là. Il faut reconnaître que vous n'allez pas susciter un grand intérêt en étant un illustre inconnu. Alors dès lors, je m'étais rendu compte que quand les gens écoutaient ce que je faisais, ils étaient plutôt très positifs, mais c'était vraiment difficile de les faire écouter. Donc l'idée, c'était de dire, j'ai enregistré un album de blues acoustique, virgule, sous un pont, en pleine ville, dans le trafic, tout ça. Et là, ça a fonctionné, ça a créé une curiosité assez énorme pour l'objet, et ça a permis de lancer l'histoire. Mmh.
Et donc voilà, adaptation en public, réalisme, peut-être fatalité, je ne sais pas, par rapport à ce que tu penses que les gens attendent de ta démarche, générosité aussi quelque part, il faut bien le dire. Est-ce que c'est dans les mêmes auspices que sur l'album Homegrown, qui lui a demandé un temps de gestation beaucoup plus long, hein? Il y a forcément des hésitations, des moments de doute là pour cet album sorti par la suite.
Non, je crois que le doute, c'est l'outil de travail, quoi. C'est l'établi sur lequel on travaille. Moi, je crois que mon établi, il est fait de doutes. Et il n'y a pas eu plus de doutes pour cet album-là que pour le suivant. Simplement, je suis attentif à faire les choses au rythme où elles doivent se faire. Donc, les gestations, elles peuvent être plus ou moins longues, et c'est pas quelque chose dont on peut vraiment décider. Donc, ça s'est très bien passé. Il y a eu effectivement tous les doutes nécessaires à aboutir à un projet qu'on puisse laisser partir après en l'assumant complètement. Mmh. Et puis, il y a aussi cette volonté de, dans ce deuxième album, il y avait la volonté de ne pas tomber dans le rôle du type qui est le revival du blues acoustique des années 30, parce que j'avais commencé, comme ça avait très bien marché avec le premier album, j'avais commencé à sentir qu'on allait me parachuter un peu dans ce rôle-là.
Ouais, dans ce concept-là, et encore une étiquette de plus, j'allais dire.
Et encore une étiquette de plus, et encore un carcan, et j'étais très très précautionneux à ce que mon truc ne... Je trouvais que c'était épouvantablement prétentieux de se faire parachuter ou de se considérer comme la réincarnation de Johnson, de Skip James ou de Johnson, de qui vous voulez. Donc il y avait une prudence par rapport à ça et vraiment une volonté de diriger ça sur quelque chose de contemporain.
Est-ce que c'est vraiment prétentieux aussi de vouloir se forger une identité qui t'a emprunté celle de ses aînés, j'allais dire ?
Je crois pas qu'on peut se forger une identité. Moi, j'ai jamais ressenti ça. Il y a peut-être des gens qui y sont arrivés, mais je crois que l'identité, elle se forge d'elle-même. Ouais. C'est-à-dire que si on est attentif à une certaine sincérité et à une certaine justesse dans ce qu'on fait, et qu'on n'emploie pas des formules, mais au contraire qu'on essaye de proposer des choses qui ont leur existence propre, le style, la personnalité, elle va s'imposer d'elle-même. Moi, j'ai jamais cherché à fabriquer ça.
Napoléon Washington, qu'est-ce qu'on ressent généralement à la naissance d'un album ? Est-ce que c'est comparable à la procréation ? Est-ce qu'une femme pourrait ressentir plus fortement ce genre de choses ? Quand on livre, tu disais un produit, moi j'allais dire un bébé, au public, est-ce que c'est comparable ?
Moi j'ai le sentiment que c'est assez comparable, oui, mais comme j'ai enfanté que d'albums, j'ai de la peine à en savoir davantage, ça je voudrais laisser... C'est à des femmes qui auraient fait les deux, disons, le soin de dire si c'est vraiment comparable. Mais il y a effectivement, ça naît d'une étincelle de plaisir.
Mmh. Ça, c'est déjà un point bon point commun, effectivement.
Ensuite, il y a une longue gestation jusqu'à que ça atteigne une certaine maturité et qu'on puisse laisser le truc sortir du nid où on a couché. Ça, c'est une deuxième chose. Mmh. Et puis après, effectivement, il y a aussi le postpartum qui peut se pointer à la fin d'une production aussi. Donc je pense qu'il y a plein de points comparables.
Oui. Voilà, Napoléon Washington en Sweet Home Chicago.